Mais j'écoute Radio Plus sur 104.3 et vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer une page de l'histoire de Flandre qui est assez méconnue. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que pour trouver bien sûr des informations, eh bien, il a fallu fouiller car en effet, eh bien, on ne trouve pas ces événements dans les livres d'histoire classique, en particulier bien sûr les livres d'histoire scolaire. Et pourtant, ces événements ont particulièrement marqué les gens de l'époque. Et avant de poursuivre cette émission, nous allons bien sûr d'abord planter le décor, car c'est important de bien resituer la situation telle qu'elle existait donc dans les années 1790 à 1814. Alors il faut savoir que depuis les années 1790, eh bien la France est en guerre. Elle est en guerre pour bien sûr défendre son territoire, parce que eh bien les puissances européennes de l'époque, eh bien ils veulent tout simplement remettre le roi de France sur son trône, et donc évidemment la jeune République de France, eh bien se défend, et naturellement il faut se battre. Et on se souvient tous de cette fameuse bataille de Valmy en particulier. Et donc les Alliés voulaient tout simplement étouffer cette révolution française qui risquait bien sûr de mettre l'ensemble des peuples européens dans le même mouvement, à savoir que les trônes des familles royales européennes risquaient d'être remis en cause et bousculés par la révolte peut-être des peuples. Donc il fallait mater cette jeune république.
vous venez d'entendre la musique d'une danse populaire de Hollande, Rotmenstrop, du gruau avec du sirop. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer donc une page d'histoire assez méconnue, l'histoire de Flandre dans la période napoléonienne. Et donc, après les guerres de la Révolution, d'après la jeune République française, où bien sûr les Alliés voulaient bien sûr remettre le roi de France sur son trône, eh bien, les événements se bousculent, arrive l'Empire et c'est Napoléon qui arrive au pouvoir. Alors Napoléon, évidemment, si au départ les guerres françaises et d'ailleurs les premières guerres de Napoléon qui veut conquérir une grande partie de l'Europe, eh bien les populations sont plutôt favorables au sens où ça apporte évidemment un souffle nouveau, une chute de certains privilèges. La classe moyenne, de ce qu'on appelle les bourgeois en général, sont plutôt contents de voir que, eh bien, il n'y a plus cette hiérarchie avec les nobles, et donc ils se sentent un peu libérés. Mais hélas, Napoléon veut toujours agrandir davantage son empire, et pour cela, il lui faut une armée de plus en plus nombreuse, de plus en plus forte, de plus en plus puissante, et donc eh bien, il fait appel naturellement à soldats. Comment ça se passe? Eh bien, au fil du temps, évidemment, il fait des levées de troupes. Alors au début, ça va, il arrive facilement à reconstituer son armée, mais évidemment au fil du temps, il y a de moins en moins de volontaires. La campagne eh bien, se plaint naturellement parce qu'on lui prive toujours de plus de bras, surtout que ce sont des jeunes hommes qui s'en vont. Et puis la guerre, ça coûte cher, il y a toujours des levées d'impôts de plus en plus lourds à supporter. Et donc, si au début de l'Empire, il y avait comme un souffle de liberté, mais très vite, Napoléon, qui a, bien sûr, sentant sans doute une certaine colère des populations, a voulu encadrer donc celle-ci par la mise en place d'une police qui était particulièrement sévère, qui était totalement à sa botte. Alors voilà que ça fait déjà 20 ans que la France est en guerre. Voilà des années que les provinces du Nord, l'actuel, ce qu'on appelle aujourd'hui qui est la Belgique et le Royaume des Pays-Bas, avaient été découpées en départements, au même titre que la France, et fournies, bien sûr, des hommes à Napoléon. Or, la colère grandit en Flandre, et les choses vont particulièrement s'accélérer en 1813, en particulier, après une bataille, la bataille des nations.
Een soldaat van Napoleon de Grote was het leger grondig beu. Hij had gestreden, gevochten en geschoten, il voulait bien être à deux. En op een morgen was hij niet op het appel, en de sergeant riep razend kwaad, mille tonnerre. Maar alle andere soldaten wisten het wel. Ze zegden droevig, hij is naar zijn pauvre mère. Leipzig, Moskou, Petrograd zijn heel mooie namen. Maar ik weet een kleine stad waar wij nog nooit kwamen. Zeven eenden in de vijver, zeven banken op de markt. En het standbeeld van een schrijver en het meisje van mijn hart. Links, rechts, één, twee, lever, sergeant, en ze wijfde met haar hand. Een soldaat van Napoleon de Grote lag te slapen in het gras. Hij had nog net een liedeke gefloten waarvan de tekst vergeten was. En hij droomde dat hij stierf voor het vaderland. En hij kreeg postuum wel 100 decoraties. En ieder jaar werd er voor hem een vlam gebrand. En zijn oude moeder leefde praktisch gratis.
Leipzig, Moskou, Petrograd zijn heel mooie namen. Maar ik weet een kleine stad waar wij nog nooit kwamen. Zeven eenden in de vijver, zeven banken op de markt. En het standbeeld van een schrijver en het meisje van mijn hart. Links, rechts, 1, 2, lever de sergeant en ze wijkte met haar hand. Een soldaat van Napoleon de Grote, die ontwaakte van de kou. In de buurt werd er plotseling geschoten, hij zei een akte van berouw. En hij strikte uit gewoonte aan zijn das, maar toen vloot er iets en alle vogels zwegen. En er was een heel klein gaatje in zijn jas, en een klokje klepte ergens 9:50. Zeven eenden in de vijver, zeven banken op de markt. En het standbeeld van een schrijver en het meisje van zijn hart. Links, rechts, 1, 2, lever de sergeant. Ze had nog steeds geen ring aan de hand.
Vous venez d'entendre Milkols, vous sortez de soldat, un soldat de Napoléon le Grand.
Et donc en Flandre, eh bien la colère commence à gronder de plus en plus fort. Les choses vont d'ailleurs s'accélérer à partir de 1813, en particulier après cette bataille dite la bataille des nations qui a lieu en octobre 1813. Cette bataille des nations qui a eu lieu entre le 16 et le 19 octobre 1813 près de Leipzig en Allemagne va se terminer par la retraite de la Grande Armée. Napoléon subit un nouveau revers, mais pour autant celui que les populations surnomment de plus en plus souvent l'ogre, eh bien il ne s'avoue pas vaincu, il veut toujours de nouveaux soldats. Il va donc lancer à nouveau une levée pour constituer une armée de plus de 300 000 hommes. Naturellement, la Flandre est mise à contribution, mais depuis quelque temps, eh bien, une révolte gronde. C'est que la Flandre a gardé un fort sentiment royaliste. Elle se sent très attachée à la foi catholique également. Dieu et le roi est un peu sa devise. Et pour eux, Napoléon, c'est l'antéchrist. C'est celui qui est contre la religion. C'est lui qui a mis enfermé le pape. Et donc, évidemment, pour ces populations catholiques, ça ne va pas du tout. Ils sont de plus en plus hostiles, donc à l'empereur des Français. Cette révolte, donc, qui était sous-jacente pendant longtemps, pendant plusieurs années, eh bien, va éclater au grand jour, un 22 novembre 1813, à Hazebrouck. À l'époque, Hazebrouck est une sous-préfecture, et le sous-préfet de l'époque, donc, lance l'appel pour avoir de nouvelles recrues. Et c'est ainsi que près de 3000 jeunes hommes se présentent, donc, dans la sous-préfecture d'Hazebrouck. Mais ce n'est pas pour s'engager dans l'armée de Napoléon, mais plutôt pour marquer leur colère. Ces jeunes gens qui sont armés de bâtons défilent dans les rues d'Hazebrouck. Ils crient leur colère et en particulier visent bien sûr les autorités. Le service d'ordre très vite est débordé. Ils sont peu nombreux puisque les soldats qui étaient en caserne ont été appelés sur les frontières pour défendre les frontières de l'Empire. Et donc ces jeunes parcourent les rues et vont se diriger vers la sous-préfecture. Alors ces jeunes conscrits, évidemment, sont de plus en plus énervés et très vite, tout va dégénérer. On défonce les portes de la sous-préfecture. La sous-préfecture est saccagée. On tente même d'y mettre le feu. Le sous-préfet a bien failli y laisser sa vie. Il ne doit son secours qu'à un voisin charitable qui l'a fait passer par une porte dérobée. Évidemment, de tels événements très vite sont remontés aux oreilles du préfet de Lille, qui lui va donc envoyer une troupe pour bien sûr mater ces rebelles. La troupe arrive donc sur Hazebrouck, elle réussit quand même à remettre de l'ordre. Elle met quand même près de 6 jours pour que le calme revienne à la sous-préfecture d'Hazebrouck. Les mutins, les rebelles se sont enfuis, en particulier dans la forêt de Nieppe toute proche, mais aussi dans les zones marécageuses pour éviter bien sûr d'être capturés. Et petit à petit, ces rebelles, eh bien, voyant quand même qu'ils avaient une certaine force, eh ben, ils vont se regrouper et vont se tourner vers un homme quasiment providentiel, en la personne de Louis Fruchard. Alors, cette fameuse journée du 22 novembre, elle est connue d'ailleurs sous un nom, le Stockenmandar, le jour, le mardi des bâtons, puisque ces jeunes, bien sûr, avaient défilé donc dans la ville d'Hazebrouck, sous-préfecture, en battant des bâtons sur les murs, sur les pavés. Et donc, ces rebelles qui se sont donc réfugiés dans les campagnes environnantes, et en particulier dans la forêt de Nieppe, évidemment, ils vont chercher à s'organiser, car ils ont vu qu'ils avaient une certaine force, et ils vont trouver un chef, en la personne de Louis Fruchard.
Ik ben soldaat, doch tegen mijn begeren. Toen ik het werd, heeft men mij niet gevraagd. Men trok mij mee, ik mocht mij niet verweren. Ik werd gevangen en als wild gejaagd. Van het ouderhuis en van mijn liefjes harte verjoeg men mij en uit de vriendenkring. Als ik daaraan denk, met kommer en met smarte, ontgloeit mijn toorn en mijn verwittering. Ik ben soldaat, moet dag en nacht marcheren. In plaats van werken moet ik op schildwacht staan. In plaats van vrij te zijn moet ik salueren. Volumes vol van domme eigenwaan. En in de strijd moet ik de moordenaar worden van broeders die ik geen van allen haat. Daarvoor krijg ik verminkt een ridderorde en hongerend roep ik dan, ik was soldaat. Of gij Duitsers zijt of Denen, uit Frankrijk, Oostenrijk of Engeland. Met rood of blauwe broeken aan uw benen, reikt aan elkaar voor goede broederhand. Kom, laten wij naar huis te samen marcheren. Onszelf bevrijden uit de slavernij. Om hand in hand de oorlog te verleren. Soldaat der vrede noem ik gaarne mij.
Rideau Belcanto, vous interprétez Ik ben soldat, je suis soldat et je ne l'ai pas demandé. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et justement, les jeunes de Flandre, eh bien, refusent de plus en plus à devenir des soldats, en effet. Et ils se rebellent. Et donc, un fameux mardi, ils avaient saccagé donc la sous-préfecture de Hazebrouck, mais devant la troupe qui est venue de Lille pour les mater, bien sûr, ils se sont enfuis pour éviter d'être recrutés de force. Et ils se sont choisis un leader, un certain Louis Fruchard. Qui est donc ce Louis Fruchard? Alors, il est né le 30 janvier 1791 à Merville, d'une famille de cultivateurs plutôt aisés, de 7 enfants. Louis est le second de cette fratrie. Sa mère, Caroline de Schindre, avait d'ailleurs été repérée au moment de la Révolution française, car elle avait refusé de porter la cocarde tricolore. Elle avait même été molestée par certaines personnes qui voulaient l'obliger à porter cette fameuse cocarde tricolore. Cette famille Fruchard, c'est en effet une famille très catholique, très attachée à la personne du roi. Même si nous sommes ici en Flandre, mais la Flandre française, bien sûr, eh bien, elle est rattachée au royaume de France, et néanmoins les convictions donc royalistes avaient beaucoup de coups favorables dans cette partie de Flandre. Louis Fruchard va donc épouser donc les convictions royalistes de ses parents. Lui-même donc va devenir un leader reconnu pour ses idées donc royalistes. On le décrit comme étant un homme de grande stature, plutôt robuste, qui fait, quand il arrive quelque part, une forte impression. C'est un homme qu'on remarque tout de suite. Il est plutôt intelligent, d'une nature intrépide. Bref, c'est un chef quasi naturel qui n'a pas besoin de beaucoup s'imposer, puisque naturellement, les gens se tournent vers lui comme le choisissant comme leader. Le 16 décembre 1813, Louis Fruchard entre dans le marché des terres à cheval, et bien sûr armé. Il exhorte les gens à le soutenir dans sa lutte contre Napoléon pour bien sûr rétablir le roi. Sachant que les alliés menacent sur les frontières de l'Empire, il encourage même les gens à l'aider, à constituer donc des troupes de rebelles et venir apporter le secours aux alliés contre, bien sûr, les troupes napoléoniennes. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, eh bien, la maréchaussée ne cherche pas vraiment à arrêter notre homme, sentant bien que la population, elle, est plutôt favorable à ces rebelles, et donc ils évitent l'affrontement direct. Louis Fruchard sillonne toute la campagne flamande pour bien sûr recruter de plus en plus d'insurgés et de constituer ainsi une véritable troupe de forte de plus de 2000 hommes. Naturellement, le pouvoir, bien sûr, commence à s'émouvoir de ce soulèvement de population. Ils ne peuvent admettre qu'une telle troupe d'insurgés puisse exister. Et donc, il fallait, bien sûr, remettre de l'ordre en Flandre. Le préfet de Lille envoie une troupe sur Merville. Mais contrairement à ce que le préfet attendait, eh bien, sa troupe qui est venue de Lille a été vaincue par les insurgés. Comme on peut l'imaginer, naturellement, un tel événement secoue toutes les autorités de l'époque. Comment cela? Des soldats professionnels se font battre par de jeunes insurgés? Ce n'est pas possible. Et donc, évidemment, quand ça arrive aux oreilles parisiennes, eh bien, les autorités décident vraiment de chercher à mater ces révoltés. Que se passe-t-il donc en Flandre? Se disent-ils. Fruchard, lui, il faut bien le reconnaître, bénéficie de beaucoup de chance. Mais il a aussi une force énorme, c'est qu'il connaît très bien le pays, bien sûr. Même si ses troupes sont un peu moins aguerries, il connaît le territoire, et puis il y a la force, les convictions royalistes, bien sûr. Et il faut bien reconnaître aussi, c'est que les troupes napoléoniennes, elles sont fatiguées depuis 20 ans de guerre. Alors évidemment, la foi dans ces combattants qui viennent de subir plusieurs défaites, en particulier celle dont on a évoqué tout à l'heure de Leipzig, mais si ça suit la fameuse retraite de Russie, alors on imagine le moral de ces troupes, et qui doivent maintenant s'affronter contre des compatriotes qui ont décidé tout simplement de renverser l'empereur.
Oerbavo bebouwde plichtelijk zijn land. Hij betaalde belasting uit vaderland. Hij ging elke zondag naar de mis. Hij was op elke begrafenis. Hij zetelde in de gemeenteraad. Hij gold als een toonbeeld van orde en maat. Hij zorgde voorbeeldig voor zijn gezin. Hij sprak vol lof over zijn boerin. In zeden en zaken zo solide. Een tweede boer, Bavo, was er niet. Maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep. Geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep. En ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vaste tijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik onthecht. Boer Bavo was waarlijk zeer solide. Een boer zoals men er zelden ziet. Maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep. Geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep. En ploegde zijn veld bij dank. De eeuwigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzame rentenier. In een herenhuis dicht bij de kerk. Van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze weenden maar konden er niets aan doen. Ze hadden om Bavo zo'n verdriet. Hij was zo zacht en toch zo solide. Want Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij Dolpenkuil, Bavo ijverde dag en nacht.
Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons donc la Flandre qui s'insurge contre Napoléon. Et donc, nous sommes en 1813. Napoléon a subi plusieurs défaites. Et évidemment, la Flandre qui a gardé sa foi catholique et est attachée au roi, évidemment, en profite, bien sûr, car ça faisait déjà plusieurs années que la révolte était sous-jacente, et là, elle éclate, bien sûr, au grand jour. Elle a choisi comme leader Louis Fouchard, qui, avec ses insurgés, réussit même à battre les troupes régulières, comme à Merville. Encouragé, bien sûr, par les succès des alliés qui sont aux frontières de l'Empire, Napoléon, qui essaie de défendre, bien sûr, son royaume, eh bien, a mobilisé le maximum de ses troupes, si bien que, évidemment, les garnisons qui sont en Flandre, eh bien, sont surtout composées de soldats de réserve qui sont fatigués et qui, bien sûr, on peut imaginer leur morale quand ils doivent affronter leurs compatriotes. Évidemment, devant les succès des alliés, eh bien Louis Fouchard encourage bien sûr ses troupes tout simplement à rejoindre les armées alliées. Bruxelles, Bruges sont menacées par les troupes donc alliées. Et petit à petit, d'ailleurs, ces villes seront conquises, sont reprises. Les Alliés marchent sur la Flandre française, en Paris aussi sur le Hainaut. Avesnes-sur-Helpe tombe le 11 janvier 1814. Le 16 janvier, ce sont des Cosaques qui pénètrent à Bayel. Et les troupes, bien sûr, essaient de mater la révolte de Louis Fruchard, mais... Maintenant, elle est appuyée par un contingent de soldats russes qui viennent appuyer les insurgés de Louis Fruchard. Louis Fruchard, c'est un homme plein de convictions, il exhorte ses troupes et nous allons ici écouter d'ailleurs un de ses discours qui est bien révélateur de ce qui peut animer notre héros flamand Louis Fruchard.
« Mes amis, leur dit-il, de cette voix forte et accentuée dont il était doué, les puissances coalisées ne se battent contre la France que pour la délivrer de Bonaparte et rétablir les Bourbons, nos seuls souverains légitimes. Ne rejoignons plus les armées du tyran, ne lui payons plus aucune espèce de contribution. Armons-nous, unissons-nous pour chasser les troupes envoyées contre nous. Pour se soustraire à la tyrannie, il suffit de vouloir hardiment. Bonaparte est aux prises avec l'Europe. Il a contre lui l'opinion publique. Il sera bientôt contraint de renoncer au trône usurpé. Un meilleur avenir nous attend, mais pour l'obtenir, prenons les armes contre celui qui nous gouverne injustement et qui nous prouve tous les jours qu'il est capable de sacrifier à son ambition le dernier des Français. »
Voilà, donc ça révèle bien la foi que a Louis Fouchard et qu'il le transmet à l'ensemble de ses insurgés qui le suivent. Et ces insurgés sont petit à petit, bien sûr, armés par les Alliés, en particulier par les Anglais. Louis Fouchard, a ce surnom de Chouan des Flandres.
Thank you.
musique traditionnelle de Flandre, la valse de Kortenberg. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous consacrons ce numéro donc à la révolte des Flamands contre Napoléon. Et ils avaient un chef, Louis Fouchard, que l'on a surnommé le Chouan des Flandres. Le Chouan des Flandres donc voit ses troupes grossir petit à petit, et ils sont armés bien sûr par les Alliés. Et il n'hésite pas à engager ses insurgés flamands à rejoindre donc les Alliés. Et ils se mettent en marche sur Paris dès février 1814. Alors les combats sont parfois durs, comme devant Doullens par exemple, mais pour autant, ils maintiennent la pression et les troupes de Napoléon petit à petit reculent devant les alliés, devant ces insurgés flamands. Et ce qui caractérise aussi Louis Fouchard, c'est qu'il demande que l'on traite les prisonniers de façon la plus correcte possible, si bien que ça lui donne aussi encore une aura. Ils savent que s'ils sont capturés par les insurgés flamands, eh bien ils auront un meilleur sort que s'ils sont capturés par les Cosaques, par exemple. Ils poursuivent ainsi leur route vers Noyon, qui tombe dans leurs mains assez rapidement. Et au fil de leur avancée, évidemment, il y a des réfractaires qui viennent rejoindre tout simplement ces troupes d'insurgés. Ils marchent vers Paris à marche forcée, et c'est ainsi que les alliés, appuyés donc des insurgés de Flandre, rentrent dans Paris le 31 mars 1814. Paris capitule, Napoléon est vaincu. Alors Louis Fouchard, bien sûr, attaché à sa terre de Flandre, va revenir, ainsi que de nombreux insurgés, naturellement. Le roi de France retrouve son trône et n'oublie pas notre ami Louis Fouchard, puisqu'il est bien sûr décoré. Grâce à l'action de Louis Fouchard, l'occupation de la Flandre, en particulier par les troupes alliées, composées surtout de Russes, de Saxons et de Polonais, ne fut pas aussi sévère que l'occupation qu'a subie Paris. Évidemment, compte tenu de son concours dans la reconquête du royaume de France, de l'Empire français qui est tombé, Napoléon n'avait pourtant pas abandonné la partie, puisque il va se sauver de l'île d'Elbe, et ce sont les fameux 100 jours. À nouveau, la France, donc l'Empire, va rentrer en guerre contre l'Europe. Que va faire notre Louis Fouchard? Il est toujours fidèle à ses convictions. Il rassemble ses troupes et il rejoint Louis XVIII.
ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב על האש המבוערת על המים הזקים על האיש השב הביתה מן המרחקים על כל אלה על כל אלה שמור
Verdeel gezongen, al langs ver van angst en pijn. Laat de koren van de oorlog ooit gezongen zijn. Maar al kan ik het begrijpen, zo redelijk gebed. Geen God, het doet een wereld vol in brand gezet. Het zijn de mensen die het zo wensen naar de zijde van.
deze looie verde strijd.
Merach resh ilan baruach, merach ok nosher kochav, mishalot libi bachoshech nirshamot achshav. Ana shmor li al kol eile, ve'alah uve'nafshi, al hasheket, על הבכי ועל זה השיר.
על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. על נתה הכל אל תשכח את התקווה,
אשיבני ואשובה אל הארץ הטובה. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש
Vanessa Van de Velde et Aura Sittner, vous interprétez Alcolélé, un chant de paix, un chant pour la paix. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et donc cette émission de la consacrons à la révolte flamande contre Napoléon, que l'on surnommait le tyran, l'ogre. Eh bien, l'action, bien sûr, de Louis Fruchard, le leader des insurgés flamands, eh bien, va devoir faire face à un nouveau événement, c'est bien sûr le retour de Napoléon. Napoléon qui s'est échappé de l'île d'Elbe et qui va donc créer à nouveau eh bien, des événements assez tragiques. C'est les fameux 100 jours. Alors que va faire notre chouan des Flandres, Louis Fruchard ? Eh bien, il est toujours fidèle bien sûr à ses convictions. Il fait appel à ses troupes qui vont rejoindre donc Louis XIV à Gand où s'était réfugié le roi de France. Les volontaires sont à nouveau armés, en particulier par les Anglais, et ils se mettent sous les ordres du général de Bourbon et ils partent ainsi à la reconquête de Béthune, en particulier de Arras, dès avril 1815. Le 18 juin 1815, eh bien, c'est Waterloo, on connaît tous la suite, évidemment, c'est fini pour Napoléon. Louis XVIII remonte sur le trône de France et naturellement n'a pas oublié Louis Fruchard pour sa fidélité, son dévouement, sa bravoure. Et naturellement, le roi Louis XVIII va récompenser non seulement le leader, le chouan de Flandre, mais l'ensemble de ses volontaires qui ont appuyé les troupes régulières. Louis Fruchard, eh bien, il aurait pu bien sûr mener une belle carrière parisienne, mais il était trop attaché à sa terre de Flandre. Et c'est de retour dans sa terre natale qu'il est accueilli en véritable héros. Il va d'ailleurs recevoir en novembre 1815 la Légion d'honneur. Alors c'est un peu étrange puisque la Légion d'honneur a été créée, comme on le sait, par Napoléon. Mais la Légion d'honneur existe toujours et il reçoit donc cette décoration. Il reçoit aussi le grade de lieutenant de la garde royale et il va percevoir une pension de la part du roi. D'ailleurs, la famille Fruchard, puisque deux frères de Louis Fruchard s'étaient eux aussi engagés dans les insurgés et d'ailleurs vont faire une carrière dans l'armée royale. Par contre, à Louis XVIII succède Charles X, qui lui va continuer bien sûr à verser la pension à notre ami Louis Fruchard. Mais par contre, Louis-Philippe, lui, a moins apprécié que eh bien, Louis Fruchard était fidèle à la personne de Charles X. Il en a gardé rancune, et c'est ainsi que Louis-Philippe va le mettre à la réforme, et notre homme n'a encore que 50 ans. Alors, que va faire notre Louis Fruchard, lui, homme de volonté battant ? eh bien, évidemment, cette mise à l'écart va particulièrement l'affecter. Il va se retirer chez sa sœur à Lettrem, où là, il va faire des petits boulots. Il va être meneur de chevaux, il va faire des travaux, et il va ainsi poursuivre sa vie très modestement. Il n'est pas marié, il est célibataire, et il va avoir une bien triste fin pour un homme qui a été un leader pendant plusieurs années. Et donc notre Chouan des Flandres, eh bien, tout simplement, va mourir dans le plus grand anonymat à l'âge de 60 ans, le 8 janvier 1851. Alors, on l'a surnommé aussi, Louis Fouchard, le Louis XVII, tout simplement parce que quand il se battait, souvent, Louis XVI n'était en disparu. Son successeur naturel était Louis XVII, et donc quand il lançait son cri, eh bien, il affirmait sa fidélité à Louis XVII. Alors, notre Chouan des Flandres a été surnommé le Louis XVII de Flandre, le Chouan, le Vendéen de Flandre. Et donc, tout simplement, notre ami Fouchard, aujourd'hui, eh bien, il faut dire qu'il est un peu oublié, et pourtant, il a fait trembler Paris pendant plusieurs années. Les troupes de Napoléon, il faut savoir aussi, et ça c'est important pour bien comprendre l'atmosphère qu'il pouvait avoir à l'époque, eh bien ces guerres napoléoniennes, il faut le savoir, ont fait plus de 3500 morts parmi les soldats, auxquels il faut ajouter bien sûr les victimes civiles, et on arrive presque à 6 millions de morts sur toute cette période de l'Empire napoléonien. Ajoutons à cela, bien sûr, les Alliés, qui eux aussi ont eu de très lourdes pertes à cause de ces guerres napoléoniennes, qui ont donc ensanglanté l'Europe pendant presque 15 ans. C'est pour ça que, évidemment, on pouvait comprendre que les gens de l'époque pouvaient surnommer Napoléon l'ogre. Cette émission touche à sa fin. Nous espérons vous avoir appris quelque chose sur une page d'histoire de notre Flandre. Une page un petit peu méconnue, il faut bien le reconnaître, mais qui a permis bien de retrouver donc un petit peu l'atmosphère qui pouvait exister dans ces années de l'Empire napoléonien. Nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus 104.3 et que vous pouvez aussi écouter sur le site www.radioplus.fr. Bonne semaine à tous.
Lang geleden op de Noordzee, daar voer een schip met de wind mee. Mist op de golven, het was een koude dag. Op het dek vijf mannen met hun drank gelag, vier met een fles en één met een gitaar. Een schone melodie, geen besef van gevaar. Lang geleden op de Noordzee, de golven mee. De dag was gevlucht. Voor de dreigende nacht. Daar verscheen de storm zo onverwacht. De wind waaide hard door hun baard en hun haren. Ze bleven luisteren naar de zingende snaar.